enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mais j'aimerais ce matin terminer cela un petit peu dans tout ce que vous avez pu entendre à droite à gauche. Terminer un petit peu en disant, quand je discute avec les pasteurs, et c'est général, c'est à l'étranger, c'est en France, c'est en général, on voit quelque chose d'étonnant, c'est le côté des fatigues. Les chrétiens sont fatigués. Ils sont fatigués, le soir ils ne veulent pas sortir, il y a réunion de prière, ils ne veulent pas y aller, il y a des enseignements des séminaires, ils ne veulent pas y aller. Ils sont fatigués. Quand vous assistez à un culte, il y a peut-être 2% qui exercent les dons spirituels, les autres non, ils sont fatigués. Quand vous regardez l'engagement de l'évangélisation, ils ne sont pas là, ils sont fatigués. Ou alors, ils ont tellement d'emplois du temps chargés, à droite, à gauche, les amis, le truc, le machin, le matérialisme et tout ce que vous voulez. La fatigue, parfois aussi la maladie, la pression aussi du lieu de travail, tout ce que le pharaon de notre siècle peut mettre sur le dos des chrétiens pour qu'ils pensent à autre chose qu'à Dieu. Eh bien, ces choses sont une réalité et on voit, comme jamais auparavant, le problème des divorces dans l'Église, le problème des séparations, le problème des incompatibilités dans le couple, le problème des séparations parents-enfants, rébellion, division, à la fois individuelle, familiale et dans les Églises. Je crois qu'en France, les Églises ne grandissent pas par l'évangélisation, elles grandissent par la transmission, la transfert de chrétiens d'une Église à une autre. Et tout ça, c'est révèle la maladie du corps de Christ, mais si le corps de Christ est malade, c'est que si je suis malade... Vous savez, il y a quelque chose qui a été mis en vigueur actuellement, ou en évidence, c'est ce qu'on appelle la médecine cellulaire. Vous avez la médecine classique qui, vous êtes malade, vous avez ceci, vous donne des médicaments, vous donne des trucs, soigne l'organe atteint, vous opère même si parfois c'est nécessaire. Ça, c'est la médecine traditionnelle avec ses symptômes, avec ses méthodes, avec ses moyens. Mais vous avez toute une quantité de spécialistes, de chercheurs qui disent ça, c'est le meilleur moyen pour se rendre malade davantage. Parce que la médecine traditionnelle, les médicaments qu'on vous colle, souvent sont entre les trusts, sont entre les mains de trusts pharmaceutiques mondiaux. Et qu'en réalité, les médicaments qu'on vous donne, d'abord, pour beaucoup, ça ne les arrange pas. Mais deuxièmement, il y a des retombées secondaires comme cancer et autre chose. Et alors, il y a, si vous voulez, mais ça, c'est un peu noyé dans la masse parce qu'il ne faut pas toucher les intérêts de tout le monde. Et alors, vous avez un courant qu'on appelle la médecine cellulaire, qui, elle, dit, mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous avez... ce n'est pas le cancer, c'est une maladie. L'artériosclérose, ce n'est pas une maladie. Le cholestérol, ce n'est pas une maladie en soi. Ce n'est pas la cause de la maladie. C'est simplement l'effet. C'est simplement l'effet. Et la cause, très simplement, très clairement, la cause, elle est toute simple. Elle est tellement simple qu'on ferait énormément d'économies. La cause tout simple de la plupart de nos maladies, c'est une malnutrition, mais pas seulement dans un menu à manger, mais un manque de vitamines, de calcium, d'ingrédients que notre organisme a besoin, qui par la nourriture actuelle, par le stress de la vie, notre organisme n'est plus alimenté. Et vous avez problème. On parle d'infarctus, on parle de trucs cérébraux, etc. Tout ça, c'est les chercheurs l'ont montré, tout ça est dû tout simplement parce que vous et moi, quelque part, il y a telle ou telle vitamine, telle ou telle ingrédient dont notre organisme a besoin, dont nos artères ont besoin, dont nos veines ont besoin, dont nos tissus de peau ont besoin, dont le sang, parce qu'en réalité, chaque cellule, au lieu de travailler l'organe qui est malade, la médecine cellulaire va jusqu'au fond et elle dit c'est ta cellule, c'est plus ta main qui est malade, c'est les cellules qui composent ta main qui sont malades. Donc on va te donner des trucs pour neutraliser ça, mais on ne touche pas la cause profonde qui est le métabolisme de la cellule. C'est comme dans une église, on peut être très bien rassemblés tous ensemble, mais si l'individu qui compose l'église est malade, c'est du bruit, c'est du vent, c'est des gros conventions, c'est des gros machins, mais quand vous allez à la maison, vous voyez que tout est détruit. La cellule est malade. Alors, la médecine cellulaire, elle dit tout simplement qu'il faut retrouver, il y a à la fois pas seulement au point de vue nourriture, mais au point de vue ajout, certains ingrédients que notre organisme, que la nourriture ne fait pas ou que nous avons mal géré, et qu'en appliquant ça, beaucoup, beaucoup, trucs cérébrales, les cris, les myocardes, les problèmes cardiaques, etc., foie, les trucs, les sanguins, les trucs, les nerfs, tout ça, se rétablissent au bout de 4-5 mois. C'est rien, c'est un cachet de vitamines, c'est rien, c'est un cachet de vitamines, pas seulement des vitamines, c'est des vitamines composées avec des minéraux. Il y a plus qu'un simple repas, des minéraux que votre organisme a besoin, qui ne fabrique plus ou qui ne fabrique pas, et que la nourriture que nous mangeons ne donne pas. Alors si vous remontez à ces causes depuis 10 ans, 20 ans, ça vous explique pourquoi vous avez des maladies chroniques, pour lesquelles on vous soignera, on vous gavera de médicaments. Alors, la grande accusation, c'est que le trust pharmaceutique sait ces choses-là, mais si, et au lieu d'attendre, et alors on vous dira, mais au lieu d'attendre la maladie, on peut l'empêcher, en redonnant simplement des choses, mais qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup de problèmes, parce que les médicaments ne se vendront plus, et ça fait aussi des problèmes d'argent. Vous voyez, on revient toujours à l'argent. Donc, je fais ça pour dire, pour montrer des grandes discussions à l'échelle mondiale, et je me montre également que ce genre de discussion, ce genre de fatigue, ce genre de cellules malades, c'est aussi quelque chose que nous voyons dans la vie des chrétiens. Alors comment s'en sortir? Je reviens maintenant, je ne suis pas médecin, quoi, je suis revenu chercheur, mais je voudrais vous lire deux textes dans la parole de Dieu. L'épître aux Hébreux, vous connaissez, au chapitre 10 où il est parlé du repos de Dieu. Du repos de Dieu, chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. » Alors attendez, pardon, verset premier. Hébreux 4. Craignons donc, verset premier, craignons donc, tandis que la promesse d'entrée dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Car si cette bonne nouvelle, et puis le verset 10 nous dit également, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ça veut dire quoi? Regardez, je n'ai pas le temps, donc je vous place simplement devant une idée de réflexion pour vous, pour cet été, et puis pour tous les jours de votre vie. La Bible nous parle d'un repos de Dieu, et la Bible nous dit d'entrer dans ce repos. Or, tout dans la société, tout dans le légalisme religieux, tout dans la compréhension humaine chrétienne de la foi, nous pousse, il faut agir, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut évangéliser, il faut, on a, et c'est d'autant plus fort qu'on a à cœur d'aimer Dieu, qu'on a à cœur de servir Dieu, qu'on veut servir, qu'on est sincère, donc je veux servir Dieu. La Bible, elle, a un autre langage qui est pratiquement incompris par 90% des chrétiens, et c'est qui explique la tension. La Bible nous parle d'un repos de Dieu. Dieu est en repos. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu s'est reposé le septième jour, et pourtant Jésus continue, il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, il y a un repos de Dieu, mais on voit que ce repos de Dieu n'est pas passif. Il y a un repos que Dieu réserve aux enfants de Dieu, mais qui n'est pas passif. Seulement la clé de ce repos doit être compris. Alors, je vais prendre un exemple, Dieu créa l'univers, Dieu créa la création, 6e jour, avec l'homme sur la terre, et le 7e jour, Dieu se repose. Alors c'est là qu'il faut comprendre la notion du repos de Dieu. Quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé les arbres, quand Dieu a créé les herbes, quand Dieu a créé les animaux, il faut comprendre que la création de Dieu est une œuvre de Dieu, mais qui a en elle-même les mécanismes pour continuer ce que Dieu a engendré. Prenez des animaux, prenez un arbre, prenez un arbre fruitier, un autre arbre. L'arbre a en lui la semence qui va lui permettre de se reproduire. La fleur a en elle la semence qui, par les abeilles, lui permet de se reproduire. Donc, vous devez comprendre que la création de Dieu n'est pas quelque chose de figé. Dieu n'a pas créé un monument. Dieu a créé des organismes vivants qui, en eux-mêmes, ont un processus de travail Ce n'est plus Dieu qui recrée chaque fois. Je vais prendre un autre exemple. Moi j'ai une voiture, hein, et le constructeur, c'était une voiture Ford, c'est le constructeur qui l'a créée. Au moment où il l'a créée, inventé les trucs, il a vraiment fait un boulot, il a fait un travail. Mais une fois que la voiture a été créée, il s'en occupe plus. Elle-même, par ça, par d'autres, par la vente, par les trucs, se reproduit. Mais lui a créé. Mais la voiture continue à exister, elle continue à rouler, elle continue à fonctionner. C'est pas Dieu qui chaque instant recrée sa bagnole. C'est pas Dieu qui chaque instant reproduit les œuvres. Donc vous devez comprendre que la création de Dieu est vivante et que le fait que Dieu a créé et qu'il s'est reposé, c'est que Dieu a mis en place des structures, des vies, des cellules, des principes de vie qui se perpétuent parce que Dieu les a créés alors qu'ils se reposent. Il n'innove plus sur ce terrain-là, il a créé, il laisse faire. Je vais prendre un exemple, vous comprenez ça. Jésus dit dans Matthieu 6, vous connaissez ce texte, dans Matthieu 6, il dira ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Du vêtement, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, j'en peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru, dans ma simplicité limitée, intellectuelle, j'ai cru que Dieu suivait chaque oiseau, chaque moineau, jour après jour, 24 heures sur 24, seconde après seconde. La Bible dit que Dieu a créé les oiseaux avec des lois de vie qui, par elles-mêmes, ces lois de vie, par elles-mêmes, ont prévu que l'oiseau peut se nourrir. En un mot, le Dieu créateur a enclenché un système de création qui permet à la création de vivre, aux oiseaux de vivre, aux arbres de fleurir, etc. Et Dieu, lui, se repose à son œuvre. Dieu ne travaille pas chaque jour pour donner une nourriture aux moineaux. Puisqu'il a engendré cette création, il a créé pour que l'oiseau trouve autant convenable quand il doit mourir ou quand il doit vivre. En un mot, vous devez comprendre que ce n'est pas le panthéisme, Dieu n'est pas dans sa création, dans le sens que les panthéistes, vous savez, les bouddhistes pensent que Dieu est là dans la nature. Etc. Non, Dieu a créé la nature avec ses normes, ta vie, il la garde, la parole de Dieu, le Christ garde ces choses en action, mais Dieu est en dehors de la création, tout en agissant dans la création. Dieu n'est pas dans la création dans le sens de mêlé à la création. C'est une œuvre à lui. Et dans cette création, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et Paul va, alors c'est là qu'on arrive au côté intéressant. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données pour vous. Et il dit encore, l'Épître aux Hébreux dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Donc, Dieu se repose. Il se repose, il a établi des normes, mais par la prédestination, parce que Dieu connaît d'avance, Dieu vous a connu d'avant, Dieu m'a connu d'avant, la préconnaissance précède la prédestination, et parce qu'il vous a connu d'avance, il vous a appelé, il a préparé pour vous une vocation, un plan, à la fois pour ce temps présent et pour l'éternité. Donc là encore, Dieu a créé quelque chose dans le monde spirituel, dans lequel nous sommes appelés à entrer, je vais vous expliquer dans quelques instants. Et Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça fait partie des œuvres de Dieu, que si je cherche le royaume de Dieu en premier, le processus de l'œuvre que Dieu a fait avant la fondation du monde, en Christ, et agit dans le monde ensuite par l'avenir, eh bien s'accomplit. Mais ce n'est plus la pression, c'est le repos de Dieu, parce qu'il a tout créé, tout a été accompli en Jésus, à la fin dans la création, à la fin ensuite par le rachat à la croix de Dieu. Mais alors je vais aller plus loin. À un moment donné, Jésus multiplie des pains. Les gens lui courent après parce qu'ils ont mangé à l'œil. et, Et Jésus leur dira, il dira, mais quelle est qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions? Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu attend de toi et de moi, c'est pas que tu fonces à commencer à faire ceci, à commencer à faire là, pour cela. Ça, c'est notre bonne religion, auquel moi aussi j'ai grandi, prêché. Il faut faire ça, il faut y aller, il faut qu'on y aille. Allez, les frères, on bouge pas. Allez, on bouge pas assez, il faut qu'on y aille. Mais ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est mon œuvre pour Dieu. Mais Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Donc, la base, la véritable œuvre que Dieu attend de nous, c'est la foi. Mais la foi en quoi? La foi comment? La foi qui? Alors, je vais vous montrer cela. La Bible vous dit que vous et moi, Dieu a créé une humanité, Dieu a créé des œuvres, animaux, créations, tout ce que vous voulez, et Dieu a créé l'homme, avec un plan, avec des desseins, etc. Mais la Bible dit aussi que quand Christ est mort, moi, je suis mort avec lui. Donc, vous demandez à un cadavre de faire des œuvres, il ne peut pas. Ça veut dire que si un cadavre fait des œuvres, c'est qu'il n'est pas, dont il puise la source et la force en lui-même, c'est qu'il n'est pas mort. Et un chrétien qui fait des œuvres pour Dieu révèle qu'en réalité, il n'a pas compris son identification avec la mort de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est extrêmement important. Ça vous explique pourquoi on est si fatigué, si stressé, si abattu. Si toi et moi, nous sommes morts, réellement morts avec Christ, la Bible dit que par ma foi, lorsque je donne ma vie à Christ, les eaux du baptême l'expriment très clairement, je suis mort avec lui. Mais si je suis mort, je ne vis plus. Comprenez ça? Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, vous devez comprendre que tout ce que vous allez faire pour Dieu, parce que vous l'avez décidé, parce que vous le pensez, parce que vous le sentez, parce que vous le désirez même sincèrement, vous apportez une odeur de cadavre à cette œuvre-là. Pourquoi? Parce que si Dieu nous fait mourir avec Christ, en Christ, c'est un fait accompli dans le passé, que ma conversion, ma nouvelle naissance, dans laquelle par ma nouvelle naissance je suis intégré là-dedans, à partir de ce moment-là, Dieu m'a uni à un corps qui est le corps de Christ, dont je deviens un membre. À partir de ce moment-là, seul, parce que le but de Dieu, c'est de donner des enfants à Dieu. Le but de Dieu, c'est de donner des membres vivants au Christ, qui est la tête. Le but de Dieu et l'action de Dieu, c'est de vous ajouter au corps de Christ. Par la nouvelle naissance, je suis ajouté au corps de Christ, dont Christ est la tête et dont le sang du corps de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, chaque fois que tu travailles en dehors d'une relation de vie qui ne vient pas du Christ, tu travailles dans un esprit de cadavre, dans un esprit de péché, de ta vieille nature, et au lieu de faire du bien, sans te rendre compte, tu ne peux pas être accepté par Dieu pour ton travail. Parce que seul ce qui vient du Christ, le cep dont je suis devenu un serment, seul ce qui vient du Christ en moi et au travers de moi, correspond au plan de Dieu pour notre vie. Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je vais devenir très très pratique pour ça. Jésus dira, l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, aussi, on a souvent cru que voilà, je suis là dans la prière et j'attends que Dieu me donne une parole. Ça, c'est quand on est encore bébé, adolescent en Christ. Mais la maturité chrétienne doit comprendre ce texte d'une façon beaucoup plus large. La maturité chrétienne ne dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute réma, parole vivante, de parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la Bible dit que quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ce don de l'Esprit devient en toi une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Tu ne reçois pas seulement une visitation de l'Esprit de Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu qui en toi devient une source, tes entrailles deviennent une source de vie. Et cette source de vie, ce n'est pas ta bonne volonté, cette source de vie, ce n'est pas ton travail, cette source de vie, c'est le Saint-Esprit. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma. Alors, je donne maintenant la clé pour entrer dans le repos. La clé pour entrer dans le repos, elle est toute simple. C'est par la foi. Rien ne se fait que par la foi. Tout se fait que par la foi. C'est par la foi, apprendre, par la patience, la persévérance, par l'écoute, par la foi, à me laisser conduire par la pulsion, par la vie intérieure du Christ. Et ne plus chercher des forces, ne plus chercher de l'intelligence, ne plus utiliser mes capacités pour faire le travail de Dieu, mais m'attendre, c'est vraiment le mot, mais m'attendre, non pas à ce que de temps en temps Dieu me parle, mais que progressivement, par mon écoute, par mon apprentissage, à écouter la pulsion de Saint-Esprit, le rhéma de Dieu devient quelque chose de plus en plus régulier, de plus en plus permanent, pour qu'à la fin, je marche, conduit, chaque jour, à chaque instant, par l'Esprit de Dieu. Non pas forcément par une voix audible, mais par l'intérieur, par le repos qui sera un arbitre au fond de moi. Et quand tu apprends à te calmer, quand tu apprends à te calmer, quand tu arrêtes et que tu as compris que tes bonnes œuvres, c'est un vêtement souillé, quand tu apprends que ce n'est plus le légalisme qui va te faire rendre agréable à Dieu, mais quand tu apprends à mettre en pratique que c'est ta foi au Christ, ton attente au Christ vivant dont tu es devenu un membre, et que tu attends qu'il te montre, que tu attends qu'il te pousse, qu'il t'attend qu'il te donne la force, que tu attends. Alors chez beaucoup, ça peut être symbole de passivité. J'attends, je suis dans un hamac, etc. Non, parce que Dieu ne va pas agir dans tes émotions, Dieu ne va pas agir dans tes pensées d'abord, Dieu ne va pas agir dans ton corps, donc si je sens rien, c'est qu'il ne fait rien. Si je ne comprends pas, c'est qu'il ne fait rien, non. La Bible dit que c'est au fond de toi, dans ton être intérieur, dans ton esprit, que le Christ est venu habiter par le Saint-Esprit. Et que c'est au fond de toi que tu dois apprendre à écouter, que tu dois apprendre à être attentif, que tu dois apprendre à suivre. Parce que si c'est au fond de toi, alors toi tu agis aussi. Parce qu'au fond de toi, par ton esprit, tu vas faire agir ta volonté pour obéir, tu vas faire agir ta volonté pour exercer ta foi pour le faire, tu vas faire agir ta volonté pour te mettre en mouvement. Si au fond de toi, intuitivement, spirituellement, tu sais que tu dois témoigner, tu n'es pas passif, mais tu vas prendre le courage de témoigner, tu vas te former. Si tu sais que tu as besoin de formation, parce que Dieu veut te former, eh bien, en un mot, c'est toi qui vas faire collaborer ton âme, ton intelligence, ta sagesse, ta volonté, et qui, c'est toi qui vas maîtriser ton corps pour mettre en action ce qu'au fond de toi, tu sais que le Christ veut faire, veut dire, veut être ou veut accomplir. Et la difficulté est là. Très peu de chrétiens arrivent à avoir cette sensibilité. Et c'est pour ça, excusez-moi, qu'ils sont crevés. Pour ça qu'ils sont crevés. Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils font, parce qu'ils prient, parce qu'ils lisent. Mais leur source est en eux. Leur source est leur capacité intellectuelle. Leur source est leurs émotions. Leur source est leur volonté, leur bonne volonté. Leur source est leur sincérité. Mais Dieu te dit, arrête le massacre parce que toutes ces choses-là ont été crucifiées comme source de vie. Mais branche-toi. Apprends, ou plutôt réalise que tu as été branché. Ce n'est pas quelque chose à faire. Ça a été fait au moment de ta nouvelle naissance. Tu as été branché sur le cep et la sève coulera. Mais il faut que tu apprennes à la laisser couler par la foi au fond de toi. Et là, vous pouvez voir, quand il y a une atmosphère dans une réunion, j'avance, il n'y a plus d'atmosphère, chaos. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, des luttes, des pensées, des trucs, des machins, les gens ne sont pas libres. Pourquoi ? Parce que toujours à nouveau, ils comptent sur leur force, sur leur bonne volonté, sur leurs émotions. Je sens, ça marche, je ne sens pas, ça ne marche pas. Ils n'ont pas compris que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et non plus par leurs émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotions, mais la cause, la racine de leurs émotions, ce n'est plus eux-mêmes, ce n'est plus les circonstances, bonnes ou mauvaises. La cause de leurs émotions, c'est l'Esprit de Dieu dans leur être intérieur. Libre, libre des bonnes œuvres. Libre du légalisme religieux, libre de mes faiblesses, si j'arrive pas, j'arrive pas. C'est pas du tout grave parce que c'est pas ce que je fais qui me justifie, c'est pas ce que je fais qui me donne des récompenses. C'est ce que Christ, c'est ce que j'apprends à laisser Christ, le rhéma journalier de Dieu, au travers de la vie, qui fera, c'est ce qu'il fait lui. C'est pas ma justice avec les bonnes œuvres qui comptera, c'est la justice de Christ à laquelle j'ai cru. Et si je crois dans la justice de Dieu, j'entre dans le repos de Dieu en ce qui concerne la justice. Et si je crois à l'œuvre de Dieu accomplie, par ma foi dans le repos. J'entre dans le repos en disant, Seigneur, moi j'ai plus besoin de faire quelque chose de moi-même. J'ai plus besoin de faire quelque chose parce qu'il faut le faire, parce que c'est la foi chrétienne. J'ai plus besoin de ça. Je suis dégagé, je suis mort. Plus besoin. Un cadavre n'a pas besoin de plaire à Dieu. Mais mon repos est forcé d'entrer dans le repos. C'est apprendre, évidemment, par la foi, dans la foi, à m'attendre à ce qu'au fond de moi, Dieu me conduise dans ses œuvres préparées d'avance, dont il se repose maintenant. Mais alors, je vais aller plus loin. J'ai dit tout à l'heure que Jésus a dit, mais mon Père travaille, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une fleur, d'un arbre, d'un animal, poirier, qui a en lui la semence de la poire, du futur poirier. Donc, Dieu a créé chaque élément avec sa capacité de reproduction. Eh bien, il faut que vous sachiez que votre vieille nature, avec ses capacités intellectuelles, mais viciée par le péché, est morte, crucifiée. Mais par la nouvelle naissance, Dieu vous a recréé. Et il a mis en vous une capacité de reproduction de vie, qui est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et le repos, Dieu se repose dedans parce qu'il a mis en vous. C'est une œuvre que Dieu a faite. Vous n'avez pas besoin de demander, c'est-à-dire il faut que je naisse de nouveau. Non, tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu est venu habiter. Que tu demandes des manifestations de puissance, que tu demandes l'aide du Saint-Esprit, baptême, toutes ces choses, ok. Mais ces choses, tu les reçois par la foi, parce que tu as cru, parce que tu as reçu l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et cet Esprit de vie qui est en Jésus-Christ a en lui-même tout le processus pour te parler, pour te pousser, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te relever, pour te guérir, pour que lui puisse, par ta sensibilité, par ton ouïr, mais seulement par le moyen de la foi, ta confiance, ton attente à lui, que tu puisses alors te laisser conduire à faire les œuvres que lui veut faire. Le Père Céleste qui a tout créé est dans le repos. Tu as reçu l'Esprit de Dieu dans un esprit de repos. Ta vieille nature, tes vieilles œuvres, c'est fini, c'est accompli. Rentre dans le repos et laisse le processus de Dieu, laisse le Saint-Esprit de Dieu au fond de toi que tu as reçu, qui va chercher à s'entretenir, à se développer de plus en plus en toi par la lecture de la Bible où il va te parler, il va parler à ta conscience, il va parler à ton intelligence, il va parler à ta moralité, il va parler à tes priorités, il va parler à ton engagement. Et vous savez quel est le critère là-dedans? C'est que tu peux dire non et tu peux attrister. Ou tu peux dire oui. Et là, Jésus a été clair. Si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Bon. Et je dirais encore ceci. La Bible, dans l'Exode 20, la Bible nous dit qu'il ne faut pas avoir d'idole au fond de nous. Une idole, c'est quoi? C'est ce que tu mets avant Dieu. C'est ce qui a priorité au fond de toi, dans tes pensées, dans tes volontés, dans tes loisirs, dans tes biens matériels, dans ton temps. Une idole, ça peut être l'argent, une idole ça peut être l'orgueil, une idole ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, une idole ça peut être ton enfant. Et Dieu te dit, si tu places ton mari, ton enfant, ton argent, ta position avant Dieu, tu es idolâtre et tu n'entreras pas au ciel. Et quand on regarde le nombre de chrétiens qui donnent priorité aux leurs, ils sont foutus sans même le savoir. Et ils fileront en enfer parce qu'ils sont devenus idolâtres. Et alors vous avez tout un enseignement, il faut aimer, pardonner. N'oubliez pas, l'évangile est très catégorique. Et on voit que c'est souvent les gens qui prennent le plus soin des leurs, qui rendent les leurs les plus malheureux et qui les amènent pas à l'évangile. Vous savez, j'étais jeune prédicateur, j'ai entendu un pasteur dire un jour, quand on pense des parents qui ont accumulé par leur vie, des chrétiens qui ont accumulé leur bien, leur argent, enfin tout ce que vous voulez, et qui vivent pour leurs enfants, qui en quelques années ont dilapidé, entraîné dans le monde, piétiné, voire même spolié, voire même donné au diable, tout le produit de leur travail de 40, 50, 60 années de leur vie, ce prédicateur a dit, ses parents, ils n'ont rien compris. Parce que toi, ni moi, ce que nous sommes, ni ce que nous avons, nous appartient. Ça appartient à Dieu. Et l'idole, ça peut être un membre, ça peut être ma femme. L'idole, ça peut être mon enfant, mais l'idole, ça peut être aussi une position sociale. L'idole, ça peut être l'argent, l'idole, ça peut être l'orgueil, l'idole, c'est de la jalousie. Enfin bref, tout ce qui est. Alors comment m'en sortir? Alors il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas mettre ses enfants pas en avant. En un mot, vous retrouvez le légalisme. Mais si maintenant vous laissez l'Esprit de Dieu, vous développez votre écoute intérieure de l'Esprit de Dieu, parce que vous marcherez non plus selon la lettre, mais vous marcherez selon l'Esprit de Dieu. Alors il vous donnera la sagesse, il vous donnera la patience d'être bon, d'être patient quand il faut, d'être peut-être ferme quand il ne faut pas. Mais c'est plus d'après vos notions humaines du bien et du mal. Mais vous serez conduit par l'Esprit de Dieu. Et parfois vous ferez des choses inattendues, parfois vous serez ferme, sévère, alors que tout le monde baisse les bras, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et parfois au contraire, vous serez tolérant, alors que tout le monde est carré, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous... Vous n'êtes plus conditionné par votre nature, par vos émotions, par les principes naturels de la vie. Vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça, ça se passe en profondeur. Et vous collaborez. Ce n'est pas de la passivité. Vous devenez attentif. Vous êtes ouvert. Vous devenez attentif. Et cela vous conduit. Alors je termine. Cette action de l'Esprit de Dieu, Jésus dira dans Jean 3, 8, le vent souffle où il veut. Dans le gouvernail, actuellement, il y a un truc à Rouen, il y a la grosse armada. Alors, vous savez, l'armada, les vents, le timonier, le pilote, les trucs, les machins, les moteurs. On utilise le vent. Mais c'est le pilote, le timonier qui conduit. Avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, tu ne dois pas utiliser le vent. Tu dois laisser le vent pousser tes voiles où il veut, quand il veut et comme il veut. Beaucoup veulent utiliser le Saint-Esprit comme ils pensent bien. Alors qu'en réalité, tu dois accepter la croix, mourir à tes meilleures aspirations, pour que seul le vent de l'Esprit souffle dans tes voiles. Et alors, le besoin, si cela, tu le développes en toi, tu n'as plus cette tresse, tu n'as plus cette tension, tu n'as plus dire, oui, je ne peux pas, je ne sais pas. Moi. Si tu acceptes de rentrer dans ce repos-là, alors tu verras, parce que c'est encore la Bible qui le dit, que tes besoins seront conduits par Dieu, pourvus par Dieu, au temps convenable, au temps opportun, Jésus est venu. Tout rentre dans le contrôle de Dieu. C'est pas de l'anarchie. Tout est prévu par Dieu. Il y a un contrôle sur ta vie, sur l'avenir. Mais à toi d'entrer dans le repos pour que tous tes besoins puissent, par l'Esprit de Dieu, être accomplis. Tu n'es plus une source de rien, ni du bien, ni du mal. Tu n'es plus la source par tes capacités, mais tu laisses l'Esprit de Dieu utiliser tes capacités. Tu laisses l'Esprit de Dieu utiliser ta force. Tu laisses l'Esprit de Dieu utiliser ton corps. Mais quand il te dit rien, ben ne fais rien. Entre dans le repos. Et alors, si vous voulez savoir, ça deviendra de plus en plus rapide. Et de plus en plus, vous verrez que plus vite vous ferez ça, plus souvent Dieu vous poussera. Mais le résultat, ce sera au fond de vous et vous pourrez voir la différence entre vos forces en action pour Dieu et la force de l'Esprit de Dieu qui se revêt de vous, de toutes les dimensions de votre personne. Il se revêtira de votre intelligence, il utilisera votre intelligence, il utilisera votre volonté, il utilisera vos émotions, il utilisera votre corps. Mais dans toutes ces choses, la grande différence entre nous, le vieil homme qui sert Dieu, et l'Esprit de Dieu que nous, c'est le repos, la paix, le repos. La paix au fond de toi, au fond de toi. Tu sais que ce n'est pas toi qui le fais. Tu sais que c'est Christ qui agit parce que toi, tu as accepté d'être le sarment qui reste greffé sur le cep qui est le Christ et la sève passe automatiquement à cause de ta foi. À cause de ta foi. Mon juste vivra par la foi. Et le grand problème du découragement, la faiblesse de bien des chrétiens, c'est leur refus. Ils ont beau discuter, pleurer, se lamenter, gémir, critiquer, c'est leur refus de marcher par la foi, dans l'œuvre que Dieu a déjà accomplie, mais que par l'Esprit de Dieu, il veut nous conduire. Entre dans le repos de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, efforcez-vous, c'est une clé de vie. Tu refuses ça, tu seras un chrétien qui aura toujours des trucs... Ton avenir est en jeu. Mais rentre dans le repos. Tu ne peux rien. Tu es mort. Dieu ne compte pas sur toi. Mais il compte que par ta foi, tu apprends à laisser Christ couler au travers de toi. Amen. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Quoi faire? D'entrer dans le repos. Comme Dieu se repose de ses œuvres. Vous avez parlé de la voiture. Le fondateur, le créateur Ford, il ne s'inquiète plus de sa bagnole. Hein. Il l'a créée. elle est dans le commerce maintenant. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres, laisse le processus de vie du Christ. Parce qu'en réalité, ton identité future, ta réalité future, n'aura de l'existence que dans la mesure où tu deviens, où tu acceptes de devenir, de développer en toi ta fonction de membre du corps de Christ. Parce que tout est pour lui, par lui et de lui. Donc, ce n'est pas ta réussite que Dieu veut. C'est la réussite du Christ dans l'éternité tout entière dont tu es un membre au travers duquel la sève doit couler. Plus rien de toi, tout pour lui, mais surtout aussi tout de lui. Et alors non seulement le Christ, au travers de tous les membres du corps de Christ, trouvera sa véritable identité manifestée le jour de son retour, mais toi également, ta véritable identité, celle que Dieu a prévue dès avant la fondation du monde, tu pourras y parvenir, mais en Christ, par lui, en lui, où ce sera Christ en toi, dans la diversité de sa personnalité, dont tu es un reflet, un membre, un organe. Ok ? Allez, que le Seigneur vous garde et qu'il vous conduise.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.